Aurélien Bélanger, votre conclusion.
Quand quelque chose est vraiment raté en architecture, c'est en général qu'il y a une idée derrière. Quand c'est catastrophique, c'est qu'il y a une théorie. Quand c'est la fin du monde, c'est qu'on a dû émettre un projet de réforme anthropologique. Je caricature un peu, mais j'ai trop subi dans ma vie ces petits centres commerciaux et ces cabinets médicaux anormalement étirés par des propylées de béton ridicules destinés à rythmer une façade sans intérêt ou à faire oublier un parement de briques un peu honteux et qui ont longtemps désigné la différence entre le tout venant architectural et la geste artistique. Je me méfiais tellement de l'idée que j'avais spontanément souscrit quand le palais de Tokyo a réouvert en 2002 à cette analyse absurde et paresseuse qui voulait que Berlin se soit offert là un pastiche des squats artistiques de Berlin et qu'on avait maladroitement confié la réhabilitation du palais de Tokyo à des décorateurs aveuglés par l'idée qu'un centre d'art contemporain devait ressembler à une friche industrielle. Tous ces murs de parpaings, ces plafonds laissés bruts, ces allures de chantier abandonnés m'avaient spécialement irrité. J'ai mis 15 ans à comprendre mon erreur et je voudrais m'en excuser auprès d'Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, les deux auteurs de cette réhabilitation à laquelle je n'avais rien compris. Je voudrais d'autant plus m'excuser que Lacaton et Vassal sont plus encore que des architectes dont j'admire le travail, des architectes dont j'admire les idées telles que leur construction les donne à voir. Leur œuvre constitue même le démenti le plus flagrant que je connaisse à mon rejet instinctif des idées en architecture. Ce qui est toujours bon signe, c'est que j'avais repéré un bâtiment des Lacaton et Vassal avant de savoir qu'ils existaient, un bâtiment contemporain du palais de Tokyo d'ailleurs, mais situé à Nantes, dans un coin un peu perdu, en face de l'entrepôt sinistre des quais, où j'allais faire des laser games. Le bâtiment était très simple, des plateaux empilés de verre et de métal, mais les détails en étaient anormalement soignés, ces garde-corps grillagés, ces escaliers obliques et parallèles, c'était précis, léger, intelligent. Je ne connaissais pas alors les manifestes du couple, la maison Latapie à Floirac, en bois brut et en tôle ondulée, ou cette villa du Cap Ferret sur pilotis plantée de trous pour laisser passer les arbres. On retrouve à chaque fois les mêmes partis pris, outre l'élégance irréprochable du dessin, la banalité des matériaux, le refus de l'ostension, un grand souci de l'espace. C'était cela justement que j'avais manqué au Palais de Tokyo. Ils avaient remporté le concours en promettant de dégager plus d'espace que tous leurs concurrents, et ce, pour un coût bien moindre. Ce que j'avais pris pour une friche industrielle était tout simplement, c'était là le coup de génie, la mise aux normes contemporaines d'un bâtiment classé, et rien d'autre que cela. En 1969, le théoricien anglais de l'architecture Reinhard Banham avait défendu l'idée révolutionnaire que l'architecture tenait moins à ce que l'on construisait qu'aux ambiances climatisées que le bâti transformait là en éléments secondaire permettait d'établir et de contrôler. Il y a quelque chose de cet ordre dans le palais de Tokyo. Ce qu'ont livré Lacaton et Vassal, ce sont strictement des normes brutes, l'essence la plus pure de ce que devait être un bâtiment en 2002. Par ailleurs, comme ils l'ont montré avec leur réhabilitation ultérieure de différentes tours, les Lacaton et Vassal n'ont pas peur des courants d'air et ne se sont jamais laissés enfermer dans une interprétation trop stricte des préceptes de Banham. L'enjeu climatique dépasse aujourd'hui les plaisirs ambigus de la climatisation. L'école d'architecture de Nantes, qui est peut-être leur chef-d'œuvre, est ainsi saturée d'espaces intermédiaires, d'espaces gratuits, hors concours et non isolés. Il est même possible, la chose possède un charme inexplicable de monter sur le toit du bâtiment en voiture. L'idée de liberté sera toujours plus piquante que la laine de verre, mais c'est un détail qui a achevé de me convaincre du génie des deux architectes. Il est impossible, devant n'importe quel bâtiment neuf, de ne pas penser au désastre de son vieillissement. Rien n'est plus triste au monde qu'un bâtiment de 20 ans. Mais ce que j'avais devant moi étaient par avance sauvés. Ces plaques banales de PVC n'avaient aucune valeur intrinsèque. On pourrait à tout moment les changer sans que la qualité du bâtiment n'en soit affectée. Solidité, utilité, beauté, c'est le programme de Vitruve, l'idée originelle de l'architecture, et jamais je n'ai été aussi certain de l'avoir réalisé.
Merci beaucoup Aurélien Bélanger.